Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons commencer par une manière peut-être un peu plus originale que d'habitude. Laissez-moi vous lire ce poème. Vous voulez bien ? Hein ? Alors écoutez, et puis ça va nous diriger dans notre méditation. Au ciel est la maison du Père, étincelante de beauté, tout en elle est gloire et lumière, ineffable félicité. Là, le bonheur est sans mélange, là, le péché ne règne plus, c'est l'amour et c'est la louange, c'est la présence de Jésus. Dans nos fatigues sur la terre, dans nos combats et nos douleurs, c'est toi, douce maison du Père, que cherchent nos yeux et nos cœurs. Jour de peine ou jour d'allégresse, douce brise ou vent orageux, poussez-vous, poussez-nous sans cesse vers notre demeure des cieux. Ce soir, je vais vous parler de ma maison dans le ciel. Vous voulez bien ? Ça sera certainement aussi la vôtre, parce que sur la terre, on a tous des maisons individuelles. Mais dans le ciel, ça sera une maison collective, genre HLM. Non, vous n'avez pas l'air de... Bon, on va aller voir ça ensemble. Hein. D'accord ? Alors, pour commencer, il nous en est parlé d'une manière admirable, formidable, dans le psaume 23. Ça vous dit quelque chose ? La fin du psaume 23 ? Voilà. Alors, le psaume 23, dernier verset, écoutez bien. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu, jusqu'à la fin de mes jours. » Et tout ça, eh bien, nous trouvons les échos. « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » Et même lorsque le monde, eh bien, aura disparu, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre où il nous est dit que la justice habitera. Et David, qui est l'auteur naturellement de ce psaume, pouvait dire « J'habiterai dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu ». Alors pour ce faire, nous allons développer naturellement cette pensée dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 13, et nous allons voir, en effet, ce que nous pouvons dire au sujet de ma maison dans le ciel, notre maison dans le ciel, parce que il nous est dit que à l'entrée de cette maison, il y a le livre de vie, et notre nom est déjà inscrit dessus. Hein. Ouais. Alors, lisons cette parole, Jean, chapitre 13, verset 31. Je vais en prendre qu'une petite partie. « Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit... » Vous lirez la suite, mais je reprends verset 33. « Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous, vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez ou si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu ? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? « Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Voilà, que Dieu nous bénisse à travers cette lecture. D'abord, cette première pensée dans le psaume. Hein. David était un homme de foi, hein. Un homme qui avait véritablement des certitudes et des convictions, et sa joie et son bonheur, hein. Eh bien, lui qui habitait dans un palais royal, imaginez-vous, il envisageait une maison qui soit encore plus merveilleuse que celle, eh bien, il était. Palais de David, ça devait être certainement déjà quelque chose. Certainement moindre que celui de Salomon, mais toujours est-il que c'était quand même une maison royale. Et puis, il a écrit ces lignes pour nous dire que même lorsque nous avons, eh bien, tout ce qui nous convient, même lorsque l'Éternel est notre berger, nous aspirons à autre chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais combien de cantiques ont été écrits sur le ciel, et particulièrement à travers des expressions, la demeure de Dieu, l'habitation de Dieu, les sanctuaires de Dieu, à travers toutes sortes de choses semblables, la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, parce que ça nourrit l'espérance, finalement, de tous les chrétiens, et peut-être... plus la vie est difficile sur la terre, plus nous aspirons à quelque chose d'autre, à quelque chose de, est-ce que l'on pourrait dire différent, puisqu'il n'y a pas de comparaison possible. La terre, c'est la terre, et le ciel, c'est le ciel. Pourtant, je crois que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui avait donné un paradis. C'est vrai, jardin d'Éden, avec toutes les conditions qui nous sont définies, sommairement, mais on pouvait comprendre que la vie était certainement différente de ce qu'elle est aujourd'hui, hein. Certainement. Mais ça, c'était le premier. La porte a été refermée de cette maison, de ce palais, de ce paradis. Et puis, il y en a une autre qui s'est entrouverte avec ce que nous dit Jésus particulièrement pour rassurer ses disciples. Pour dire, eh bien voilà, hein, maintenant il y a autre chose. Les choses de la terre, c'est ce que vous vivez, vous le connaissez. Mais est-ce que véritablement c'est le bonheur? Est-ce que c'est la plénitude? Alors, nous avons justement ces questions parce que il y a des disciples qui cherchent le chemin. Parce qu'il est question finalement, eh bien, de ce passage de la mort, de la vie à la mort. C'est-à-dire que Jésus va s'exprimer, et nous l'avons lu dans la fin du chapitre 13, où il va parler de quelque chose qui est difficile à entendre pour ses amis qui ont vécu pendant 3 ans avec lui, qui ont vu des miracles, qui l'ont suivi, qui l'ont écouté, qui véritablement lui ont manifesté, eh bien, leur fidélité, leur amour et leur attachement, et voilà que, à un moment donné, eh bien, les choses vont changer, et il faut qu'ils soient rassurés. Il faut que, même s'ils passent dans l'œil du cyclone, eh bien, il faut qu'ils soient rassurés, parce que, si nous regardons qu'à cette terre, alors à ce moment-là, il y a de quoi vraiment désespérer. Construire une maison sur la terre, on comprend, c'est tout à fait logique, c'est normal, il faut bien, hein, se mettre à l'abri, et puis abriter aussi notre famille, hein. Ça, c'est quelque chose qui a toujours préoccupé les hommes, c'est normal. Hein, de là, se faire un palais, c'est autre chose. Mais une maison, c'est important. Et nous voyons que, eh bien, Jésus nous en parle, et il nous montre que lui, il y a pensé à ça. D'ailleurs, beaucoup de constructions, d'édifications dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, même l'Ancien, hein, où les hommes veulent construire un temple pour Dieu, par exemple, Salomon, et puis bien d'autres, hein, avec ses intentions de lui faire une maison, le tabernacle dans le désert, et puis bien d'autres choses. Hein, tous ces simulacres, en quelque sorte, de ce qui était des représentations quelque peu vraiment très très floues de ce qu'il y a dans le ciel. Mais Jésus dira bien de lui-même, je suis le temple de Dieu. Hein, il le montrera naturellement. Alors, on comprend que c'est une véritable préoccupation, et puis, lorsque nous reprenons cette parole, lorsque Jésus fut sorti, parce que le traître, que nous connaissons, hein, bien sûr, Judas, eh bien, est parti pour accomplir son forfait. Alors ça, on sait ce qu'il a fait, naturellement. Et c'est à ce moment-là précis, alors que Judas n'est plus là. Parce qu'il ne faut pas que Judas soit là. Lui, il représente la haine. C'est pour ça que Jésus dira « Aimez-vous les uns les autres ». Voyez l'exemple qu'il donne. Il était au milieu de nous, et il va me trahir. Et en me trahissant, il trahit. Il vous trahit, vous aussi. Hein. Donc, Jésus va finalement, eh bien, dire ses paroles, et il fait ses adieux, eh bien, à ses amis. Dans les termes que nous avons lus il y a un instant, il leur annonce simplement et avec une grande liberté, sa mort qui est toute proche. Et là, ça va faire tout un charivari, un bouleversement, parce que ils ne sont pas prêts à ça. Bien que, précédemment, Jésus leur ait dit qu'il fallait qu'il soit livré entre les mains des hommes et qu'il souffre, tout simplement. Alors Jésus leur dira tout simplement, « Mais je suis pour peu de temps encore avec vous, alors à ce moment-là, vous me chercherez. » Vous poserez la question, « Mais où est-il ? » Et on le voit d'ailleurs avec beaucoup d'épouvante et de frayeur lorsque Jésus va être sur la croix. Ça va être un véritable traumatisme. Pierre, lui, va en perdre complètement la tête, hein, jusqu'à le renier. Il va y avoir Thomas qui dira, « Mais moi, si je n'ai pas les preuves, hein, c'est un cartésien déjà avant l'heure, hein, et si je ne touche pas, si je ne vois pas, alors à ce moment-là, vous ne pourrez pas croire que, eh bien, il est ressuscité. » Enfin, voilà. Il savait qu'il était mort, mais bon, le reste, c'était déjà beaucoup plus difficile à croire. Alors, il dira, « Mais vous ne me verrez plus. » Vous me chercherez, comme je l'ai dit aux Juifs. Quand on reprend l'évangile de Jean, on s'aperçoit qu'il avait déjà annoncé ça à ses concitoyens, qu'il devait mourir, que finalement il le chercherait. Certains diront, mais il est mort, il s'est suicidé. Enfin bon, voilà, ils invoqueront toutes sortes de choses, hein, pour, eh bien là, essayer de comprendre ces paroles de Jésus, parce que on le sait, surtout dans l'évangile de Jean, hein, et c'est là où véritablement nous pouvons poser le fondement de la foi et de la compréhension spirituelle, c'est que Jésus dira « Mes paroles sont esprit et vie ». Ce n'est pas la lettre, mais c'est l'esprit et la vie, naturellement. Alors, « Je vous le dis maintenant », dira et marquera Jésus. Donc, il va leur donner un secret. On pourrait dire que c'est un mémorial impérissable, parce qu'encore aujourd'hui, on sait ce qu'a été la mort, ce qu'a été la rédemption, l'œuvre de la rédemption, et puis aussi la résurrection. Et c'est un commandement imprévu qui va arriver, peut-être par égard à ce que il a vu et ce qu'il sait de Judas, qui lui, eh bien, va avoir une attitude complètement contraire, c'est-à-dire la haine, après avoir reçu du bien de Dieu, du bien de Jésus. Et il dira ces paroles, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Ça, c'est quelque chose que nous connaissons, hein, et souvent, même des gens qui ne connaissent pas trop la Bible citent ça, « Aimez-vous les uns les autres ». Et ce que Jésus veut signaler à ses disciples, après la défection de Judas, c'est que l'amour n'est plus en fonction du visible. Sur la terre, nous aimons parce que nous voyons. Quand on fait le choix d'un mari ou d'une épouse, d'un jeune homme ou d'une jeune fille, c'est parce qu'on l'a vu, on se marie pas comme ça. Quoique maintenant, avec Internet, on peut se marier sur photo et puis décliner un peu ses états de service et... Alors après, il y a peut-être des surprises, hein. Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Puis je n'ai pas l'intention d'essayer non plus. Mais toujours est-il que, bon, ça c'est les temps modernes, hein, maintenant. Mais toujours est-il que, c'est vrai, c'est avant tout, on choisit quelqu'un qui, voilà, qui nous plaît, qui correspond. Et puis après, hein, c'est beaucoup plus que le visible, si affinité naturellement, et puis caractère moral, etc., etc. Donc, Jésus est en train de mettre le principe important pour son Église à venir, pour ses disciples du moment, c'est que nous devons apprendre à aimer à partir du moment que lui est à la première place. C'est-à-dire en lui, pour lui et comme lui surtout. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Ça, c'est tout à fait différent de ce que le monde nous présente sur l'amour. L'amour charnel, l'amour humain, naturellement. Mais là, il s'agit d'un amour qui est d'un autre monde, quelque chose qui va beaucoup plus loin. Et Jésus va leur dire, juste avant de mourir, il va leur dire que votre force, votre spiritualité, votre foi, votre confiance, votre espérance, elle n'est fondée que sur un élément, un parmi d'autres, mais essentiel, capital, cardinal, nous pourrions dire, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est cet amour-là qui va nous donner, qui va vous donner de vivre ce que vous allez vivre, de voir ce que vous allez voir, et de comprendre mes paroles que je ne vais pas rester avec vous, que je vais disparaître. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est cet amour naturel qui s'attache au visible, mais l'amour fraternel, puisque c'est cela, hein, aimer ceux avec lesquels nous aurions peut-être jamais eu une rencontre, ceux que les circonstances ou les événements de notre vie, les épreuves peut-être de notre vie, toutes sortes là de situations de notre vie nous ont amenés à rencontrer des hommes et des femmes que nous n'aurions jamais peut-être choisis, que nous n'aurions jamais rencontrés ou été vers eux. C'est parce que finalement, le lien qui nous unit et qui nous donne de pouvoir accomplir cette parole, c'est parce que vous et moi, les uns et les autres, c'est que nous avons rencontré Jésus dans notre vie. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Ça, c'est l'exemple suprême, quoi qu'il en soit. Et les paroles sont magnifiques et formidables, parce qu'il ajoutera, mais à ceci, le monde, l'univers connaîtra. Et je dis bien que c'est pas tous connaîtront, mais dans ce tous, il y a beaucoup plus que tous ceux qui sont autour de nous. Moi, je pense que c'est une confession vis-à-vis du monde. C'est une confession mondiale. C'est une confession cosmique et universelle. Parce que il y a quelque chose d'extraordinaire et de formidable dans un monde de haine, que des hommes et des femmes s'aiment parce qu'il y a finalement, et bien là, un sentiment commun très fort, qui n'est pas humain, qui n'est pas charnel, mais celui de notre amour pour Jésus. Et ce qui fait que c'est une obligation. Hein. Une obligation, nous en faisons ce que nous voulons. Mais toujours est-il que c'est un impératif plutôt. C'est peut-être le mot le plus juste. Parce que l'amour fraternel trouve sa force à aimer à cause de Jésus, en raison de Jésus. Si lui aime Jésus, bien moi aussi j'aime Jésus. Et ensemble nous allons aimer Jésus ensemble. Et nous allons nous aimer les uns les autres naturellement. Lui il est invisible, différent de l'amour visible dont nous avons parlé. Lui il est invisible, mais en raison de ce que je sais de lui, et nous trouvons en chacun de mes frères et de mes sœurs, de ceux qui croient en Jésus, eh bien quelque part, ce qu'est Jésus lui-même. Pour ça que il y a des choses qui sont complètement antinomiques et absolument contraires. Quand il y a dans le milieu ou le monde de ceux qui se réclament du christianisme ou que se réclament d'être croyants et qui n'arrivent pas à s'entendre ou qui n'arrivent pas à s'aimer, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le lien avec Christ ne doit pas être très fort ou ne doit pas être valide en tous les cas, quoi qu'il en soit. Et voilà que par la suite, c'est Simon Pierre qui a toujours l'occasion de parler en son nom et aussi au nom des autres, va lui poser cette question parce que Jésus est en train de faire là, en quelque sorte, un très beau discours sur l'amour. Mais Pierre n'a pas oublié ce qu'il venait de dire auparavant, qu'il allait partir et que bientôt il ne le verrait plus. Alors il va reprendre la parole, il va dire « Mais Seigneur, où vas-tu ? » Ça, ça le préoccupe, c'est quelque chose qui lui tient à cœur de savoir « Mais pourquoi Jésus tu nous as dit ça ? Pourquoi tu nous dis que tu vas t'en aller ? Qu'est-ce que ça signifie ?» Et Jésus de lui répondre tout simplement, sans lui donner une réponse tout à fait particulière, précise, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Souvenez-vous. Souvenez-vous que lorsque Jésus est monté à la croix, avant lorsqu'il a été jugé par le Sanhédrin, quelle était l'attitude de Pierre ? Hein ? Quelle était l'attitude de Pierre ? Jésus va répondre finalement avant ce que nous allons voir d'ici quelques instants et commenter, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Lorsque Jésus est ressuscité, dans le dernier chapitre de l'évangile de Jean, par une curiosité, Pierre lui posera la question « Mais qu'est-ce que je vais devenir ?» Et Jésus lui répond tout simplement « Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Maintenant que tu vas être vieux, eh bien tu ne feras pas ce que tu veux. » Et de la manière dont Jésus va lui répondre, cela laisse entendre, peut-être, mais certainement d'après l'histoire, que Il parlait de la mort de Pierre. Tu ne me suivras plus tard. Tu seras aussi baptisé de ce baptême de la mort, de ce baptême de la souffrance. Donc, Jésus va pas lui répondre, naturellement, mais il va lui laisser entendre, tu me suivras plus tard. Et je crois que dans ce que Jésus a vécu, dans son humanité, passant par de la naissance à la mort, nous vivons aussi la même chose. Nous suivrons toujours Jésus plus tard. Le plus tard possible, peut-être. Ça dépend. Mais toujours est-il que Jésus va donner cette parole. Là où je vais, tu ne peux pas venir maintenant. Parce que c'est mon heure à moi. Ton heure viendra. Alors, Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? C'est quelque chose qui l'intrigue, Pierre, dans cette question. Et il va dire, comme pour faire fléchir Jésus, comme pour essayer d'avoir vraiment une insistance pour avoir une réponse, il dira, mais je te donnerai ma vie pour toi. Ce à quoi Jésus va répondre, tout simplement, « Tu donneras ta vie pour moi, en vérité, je te le dis, le coq chantera pas, que tu ne m'aies renié trois fois. » Ah, voilà la question de Pierre. Ce que Pierre va apprendre, il va le savoir plus tard, dans le courant de sa vie, et certainement après des années, parce que Jésus va lui donner la leçon, et c'est une leçon pour chacun d'entre nous par rapport à la validité de l'expiation que Jésus a accomplie pour chacun d'entre nous et de la rédemption. Ça veut dire, parce qu'il faut que Jésus meure pour Pierre avant que Pierre ne puisse mourir pour Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? Pierre lui dit spontanément, mais je suis prêt à donner ma vie maintenant. Et il va donner quelques preuves avec l'épée, là, etc., etc. Il a failli y passer, Pierre, hein, finalement. Il a peut-être été, il aurait pu être à la droite ou à la gauche de Jésus le même jour sur une croix. Hein. Mais pour nous montrer que celui qui est debout prenne garde de tomber et que quelque part il y a des choses qui sont mystérieuses, il y a des choses qu'il faut comprendre. Et ce que nous pouvons retirer, c'est qu'il y a un véritable enseignement sur le salut. C'est qu'il faut, et aujourd'hui comme hier et certainement demain pour toutes les générations, il faut que Jésus meure pour chacun d'entre nous afin que nous puissions mourir pour lui. Donner notre vie, nous consacrer, enfin voilà, toutes sortes de choses. Quoi qu'il en soit, Paul le dira, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu. Nous vivons pour Christ. Bon, c'est un petit peu le commentaire que l'on peut donner, mais moi j'en arrive finalement à mon histoire de maison. Et c'est intéressant de prendre cette dimension. La réponse qui va être donnée à Pierre, d'une manière tout à fait pratique, est un encouragement à faire confiance. Il dira un peu plus loin que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Nous voyons que Jésus va donner cette parole comme une antidote à toutes les incertitudes humaines, l'avenir, on connaît le passé et le présent, également, ce que sera demain, peut-être l'immédiat, enfin demain, et puis la destination finale, et il va ajouter ceci, il va dire, mais il n'y a qu'une chose qui compte pour Dieu, c'est la foi. Tout simplement faire confiance. Et c'est pourquoi il dit, mais que votre cœur, devant la mort, devant mon départ, à travers finalement le monde qui s'entrechoque, le monde qui se tue, qui se détruit, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est que vous ne variez point, que vous ne capituliez point, finalement, par rapport à votre conviction, à votre certitude que vous avez dans votre cœur ne se trouble point. Un autre texte nous dit, mais qu'il ne s'alarme point, n'ayez pas peur. Croyez en Dieu et croyez en moi, et nous en venons finalement à ce que Jésus va nous laisser et ce qu'il laissait aussi à Pierre. C'est une question de toujours, c'est d'être rassuré devant l'inévitable fatalité de l'humanité, de l'homme, c'est-à-dire la mort. Qu'est-ce qu'il en est? C'est pour ça que, quand nous avons lu un peu ce texte tout à l'heure, ce poème, c'est bien pour l'espérance des croyants et des chrétiens à travers tous les âges. Mourir. Au-delà, qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Est-ce que ce que nous savons pertinemment et qui est quelquefois tellement, c'est épouvantable, c'est dramatique, c'est repoussant, hein, c'est terrible la mort. Parce que bon, on en sait, on en connaît un petit peu les éléments et ça fait partie de ce monde et puis des traditions finalement de ce monde qui rajoutent peut-être de la peine et du chagrin. Hein. Enfin, moi, signe avec moi, je voudrais que ça soit plus simple que tout ce décorum et toutes ces choses. Hein. Bon, mais voilà, c'est comme ça, c'est le monde. Et puis chaque civilisation a sa manière finalement, de vivre finalement une séparation, et bien aimer, etc., etc. De vivre la mort. Hein. Quelquefois, c'est assez étonnant dans certains pays. Hein. Chez nous, c'est assez sobre. Mais bon, c'est toujours ça, de toute façon. C'est toujours la mort, quoi qu'il en soit. Et l'au-delà. Qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il? Et commencer. Et c'est de ce commencer que Jésus va nous répondre. Il va pas tout dévoiler. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les enseignements sur le ciel, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des bribes, il y a des lueurs, il y a parfois des flashs pour nous montrer que, conséquemment à ce que Jésus nous dit, mais que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, parce que la réponse, nous l'avons finalement dans les quelques lignes qui suivent. Jésus dira en substance, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ouais. Alors ça peut être interprété différemment, parce que il y a la maison du Père, espérance de David. Je veux habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Il y a aussi encore, ça me vient à l'esprit, l'histoire de Jacob avec lorsqu'il fuyait, et lorsqu'il était là, dans un lieu où il a eu une apparition, il y a eu une révélation à ce moment-là, Et il va trembler, il va avoir une peur terrible, Jacob. Premièrement, il n'a pas la conscience tranquille, et pour cause. Mais toujours est-il qu'il va y avoir une révélation, et à ce moment-là, il va sentir que tout l'endroit où il est, qui s'appelle Bethel, hein, c'est ce que ça veut dire Bethel, maison de Dieu, c'est ça, hein, qu'il y a là une présence inouïe, quelque chose de tout à fait particulier, et il va dire, c'est là la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Alors ça, c'était bien avant, hein. Il y en a eu des choses qui se sont passées, et puis des hommes qui ont fait toutes sortes d'espérances. Moi, j'aime bien Job, qui en parle de la mort, mais qui en parle comme d'une espérance. Même si tout est détruit, il dira, mais je voudrais qu'on grave avec un burin de fer, eh bien, ses paroles, et il dira, il proclame hautement, pour son temps, mais aussi pour toute l'histoire des hommes, il dira, mais je sais que mon rédempteur est vivant. Vous rendez compte, il annonçait déjà le salut, mais des siècles auparavant. Alors, pour revenir finalement à la maison du Père, la maison du Père, il y a finalement une maison. Un Père, c'est certainement son devoir, et puis aussi son objectif, de mettre à l'abri, de faire une maison pour sa famille. Hein, quand on voit dans le règne, même animal, les animaux ont leur maison. Enfin, on les appelle avec différents noms, naturellement, des gîtes, hein, des tanières, ou tout ce que vous voudrez. Mais toujours est-il que l'homme a besoin d'un refuge, il a besoin d'un abri, déjà dans les choses de cette vie, pour finalement sur cette terre. Mais Jésus nous dira, et lui, il parle de son Père, donc il est le Fils, et il connaît cette maison, parce qu'il vient de cette maison. Il vient, là il va y retourner, avec la résurrection, l'ascension, etc. Et bientôt il reviendra également de cette maison. Mais le texte nous laisse et le suggère, il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père. Donc c'est bien quelque chose de très personnalisé, mon Père. Et quand il nous parle que nous sommes ses disciples, que nous sommes finalement, eh bien là, ses amis, c'est qu'il y a quelque chose qui le prépare. D'ailleurs, les choses sont dites de cette manière. Alors, on peut y voir différentes interprétations autour de cela. La maison du Père, naturellement. Mais plusieurs demeures. Est-ce que ça peut signifier, eh bien, que c'est en fonction de... Non, notre salut sera le même et égal pour tout le monde, hein, il faut le savoir, hein, je tiens quand même à le dire. Hein, il n'y a pas des demi-sauvés, des quarts de sauvés et puis des parcelles de salut. Hein. Non, on est tous sauvés en croyant en Jésus-Christ et nous y vont, nous allons au ciel, dans la maison du Père. Mais quand il dit qu'il y a plusieurs demeures, j'ai regardé un peu les traductions. Certains disent qu'il y a plusieurs places, d'autres il y a plusieurs endroits. Est-ce que ça ne correspondrait pas peut-être à ces paraboles sur le service et sur, quelque part... notre état de sanctification, notre état de régénération à la ressemblance de Jésus. Ça peut être ça. Il peut y avoir une valeur morale qui rentre en jeu. C'est-à-dire que je peux être chrétien à distance et puis voilà, croire en Jésus. Je suis sauvé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Maintenant, quand on voit les paraboles des mines ou les paraboles des talents, on s'aperçoit qu'il y a des choses assez surprenantes dans la bouche de Jésus. « Viens, bon et fidèle serviteur, parce que je t'ai remis 10 mines, 10 talents, enfin, voilà. Et maintenant, eh bien, puisque tu as été un fidèle serviteur, et que tu as pris soin de mon œuvre, que tu as pris soin de ce que je t'avais confié, tu règneras, tu auras autorité sur 10 villes, sur ceci et cela. » Alors, c'est vrai que c'est assez difficile à comprendre, hein. Il n'y a pas d'être ambitieux dans cette affaire, parce que c'est pas une question d'ambition, autrement ça serait exactement la même chose que sur la terre. Mais toujours est-il qu'il doit y avoir quelque chose qui doit avoir une signification, soit avec, ou les deux en même temps, soit avec un service assidu, fidèle, supportant les souffrances et les tribulations, et avoir été jusqu'au bout, comme Paul le dira, j'ai gardé la foi, et finalement, eh bien, maintenant je suis arrivé au terme de ma vie, mais je sais que la couronne de gloire, parce que c'est ce qui est écrit, hein, m'est réservée. Ça peut être finalement la consécration, le service, et puis ça peut être également notre état moral, de dire, eh bien voilà, avec la grâce de Dieu, toujours avec la grâce de Dieu, jamais sans la grâce de Dieu, parce qu'on n'y arrivera jamais, mais de dire, eh bien Seigneur, moi je veux être celui, l'homme que tu désires, la femme que tu désires, en laissant l'œuvre du Saint-Esprit se faire, et je pense qu'il y aura certainement plusieurs demeures, plusieurs places, plusieurs endroits, plusieurs peut-être situations, je ne peux pas vous l'affirmer, mais de l'autre côté, où, compte tenu peut-être de certaines choses, puisqu'il est parlé de récompense, il est parlé de couronne, on l'a dit tout à l'heure, mais de récompense, peut-être qu'il y aura une proximité avec Dieu, ou avec Jésus, on sera tous sauvés, ça c'est sûr. Mais peut-être d'autres responsabilités aussi de l'autre côté. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et Jésus va spécifier à Pierre et à ses disciples, et Pierre en particulier qui pose la question, mais voilà, je suis prêt à donner ma vie, etc. Jésus lui dit, tu vas voir, le coq un jour il va chanter, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Tu vas comprendre que tu es un homme faible. Tu comprends que tu es un homme, tu es peut-être téméraire, mais tu vas apprendre les choses. Et d'ailleurs, de fait, Pierre a été réhabilité, il a appris les choses naturellement. Mais Jésus dira, mais si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Ce qui veut dire que si c'était du mensonge, pourquoi Jésus nous l'aurait-il dit? Mais il nous dit que c'est vrai, il nous dit que ça existe. Et quelle espérance pour chacun d'entre nous, finalement, de savoir que Jésus nous a dit la vérité. D'ailleurs, un petit peu plus loin, quelques versets plus tard, il dira bien, je suis la vérité. Nul ne vient dans la maison de mon Père, ne vient au Père que par moi. Donc tout est cohérent dans ces textes. C'est pour ça que j'ai pris dans le chapitre 13 pour aller glisser un peu sur le chapitre 14 parce que finalement, ça se tient. Et c'est les préoccupations des hommes devant peut-être la peur, devant l'inconnu, devant ce qui peut être pour nous humains quelque chose d'effrayant. Mais si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Donc Jésus nous dit, c'est que c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose à entretenir dans notre vie de chrétien, au plus profond de nous-mêmes. Et il ajoute ceci, « Mais je vais vous préparer une place. » Eh oui, une place. Alors la place est-elle préparée? Elle l'est maintenant. Mais quand il parlait aux disciples, il voulait parler de quoi? De la croix. Ce n'était pas encore totalement accompli. Le projet, le plan de Dieu était en route. Mais quand il parle, « Je vais vous préparer », c'est encore au futur. Je vais maintenant. C'est imminent. Mais pour nous, est-ce que ce n'est pas une chose qui est complète et totale et accomplie? C'est une réalité. Si l'on voudrait transcrire les mots, on pourrait dire « J'ai préparé pour vous une place ». C'est une assurance pour nous. Et de savoir que nous avons une place dans le ciel devrait pouvoir éteindre nos craintes et nos frayeurs de la mort. Oui. Il y a quelquefois des chrétiens qui ont pensé, parce que je l'ai entendu parler, qui ont pensé qu'ils ne voulaient pas mourir et qu'ils attendaient le retour du Seigneur pour ne pas mourir. Bon, j'en connais qui ont parlé comme ça et puis finalement qui sont partis de leur belle mort, enfin de la mort la plus naturelle et qui soit, mais ils sont sauvés, il n'y a pas de problème. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous savons qu'aujourd'hui c'est une réalité pour nous. Et de pouvoir affirmer cette foi, et confirmer aussi cette foi, c'est quelque chose de rassurant. Est-ce que chacun d'entre nous, nous pouvons dire que nous savons où nous allons? Oui. Bon, il y a toujours le côté humain de dire, moi je vais mourir, mais je voudrais pas souffrir. C'est tout à fait logique, hein, c'est normal. C'est tout à fait normal, c'est la grande hantise. Et je crois qu'on y pense tous à un moment ou à un autre, les uns et les autres. On se dit, mais comment ça va finir? Parce qu'on en a vu d'autres, c'est fini difficilement. Hein. J'ai vu souvent les enfants de Dieu finir dans la paix et dans le repos de Dieu. Plus souvent. Ah oui. Et quelquefois même à l'extrême, certains qui se sont convertis vraiment in extremis, un peu comme le brigand sur la croix, partir aussi dans la paix, dans la joie, ils avaient tout simplement, avec un accompagnement d'une simple prière, de demander pardon à Dieu, je m'en souviens d'un vieil homme. Ah oui, je me souviens encore de son nom. Et qui vraiment est passé l'après-midi, enfin on avait passé dans l'après-midi pour le voir, son fils nous avait dit « Allez voir papa, il va mourir ». Effectivement, il est mort tout de suite après, mais un homme qui ne s'était jamais préoccupé de Dieu, et nous lui avons parlé, nous lui avons dit « Mais voilà, le Seigneur, il pardonne les péchés, est-ce que vous voulez que Dieu, eh bien, vous pardonne vos péchés, est-ce que vous voulez demander pardon à Dieu ?» Et il s'est éteint vraiment dans cette sérénité. C'est curieux, hein, ça, c'est formidable. C'est une belle mort, en quelque sorte, si la mort est belle. Hein, parce que c'est pas le mot approprié, c'est pas le qualificatif. Mais c'est vrai que ça, c'est ce que nous rejetons, naturellement, et c'est tout à fait naturel. Et quand Jésus nous dit, mais je vais vous préparer une place, je vous ai préparé une place, ça doit être quelque chose qui doit pouvoir, eh bien, là, être quelque chose de puissamment rassurant. Et c'est aussi rassurant également pour tous ceux, ça fait partie du message de l'Évangile. Hein. Pour ceux qui craignent la mort, auxquels nous sommes parfois, eh bien là, conduits à leur parler, il y a déjà une place. Et lorsque je m'en serai allé, dira-t-il, et que je vous aurai préparé une place, allez, préparation de cette place, Jésus nous dit, mais je reviendrai. Ouais. Et là, il fait allusion d'une manière très claire à sa résurrection, d'une manière très claire. Mais il fait aussi allusion, eh bien, à son retour. Parce qu'il y a un laps de temps entre, ça fait 2000 ans, plus de 2000 ans que Jésus est ressuscité. Mais à travers l'histoire de l'Église, à travers tous les temps, à travers la prédication de l'Évangile, n'oublions jamais de dire et de bien spécifier que Jésus revient. Sommes-nous dans les temps? Je le crois, comme beaucoup d'autres l'ont dit avant moi. Mais nous devons en tous les cas en garder la certitude, parce que il y a, à travers sa mort expiatoire, eh bien, il nous acquiert en quelque sorte, à travers la croix, il nous acquiert le droit d'appeler cette maison céleste la nôtre. Ouais. Parce qu'elle nous appartient, cette maison. Nous avons déjà notre place. Vous savez que déjà vous êtes assis au centre évangélique, et en même temps, sans le savoir, vous êtes assis dans le ciel, à la droite du Seigneur. Hein. Oui, assis en Christ, dans les lieux célestes. Hein. Et c'est notre identité spirituelle qui est déjà là-bas. Et ça, quelquefois, on devrait s'en souvenir de dire, je suis là, oui. Mais d'un autre côté, je suis déjà aussi de l'autre côté. À partir du moment où nous avons accepté Jésus, je ne voudrais pas faire de la haute théologie, mais en tous les cas, c'est quand même les vérités de l'Évangile, quoi qu'il en soit. Propre à nous encourager, propre, finalement, eh bien, à nous stimuler dans notre vie spirituelle. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Et là, nous avons l'allusion, tout simplement, à la première phase de la venue de Jésus dans les airs, où il nous est dit qu'il enlèvera l'Église. Les morts en Christ ressusciteront. Nous irons les rejoindre, vous rendez compte, si vous avez jamais pris l'avion. Oh, imaginez-vous que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelqu'un qui n'a jamais pris l'avion? Hein? Non, personne ne voulait pas répondre. Mais peu importe. Hein, là, il n'y a pas de passeport, il n'y a rien du tout, pas de contrôle, rien du tout. Et voilà. Et on sera enlevé en un clin d'œil. Imaginez-vous ce que ça peut être. Hein? Non, on ne peut pas se l'imaginer, mais toujours est-il que la Bible nous le dit. Parce qu'elle se met à notre portée de compréhension, mais nous sommes bien au-deçà de ce que ça va pouvoir représenter. Et nous serons emmenés dans les cieux. Nous irons à la rencontre, finalement, de tous ceux qui sont déjà là-bas, de ceux que nous aurons vus, de ceux que nous aurons aimés, de ceux que nous aurons connus. Imaginez-vous, hein, dans un corps glorifié. Et là, eh bien, il y aura justement, eh bien, cette apparition, il revient. Je vous prendrai avec moi, dira-t-il. Et nous croyons que il nous a déjà donné un signe extraordinaire de son retour et de sa présence avec nous jusqu'au moment où il va revenir. C'est la Pentecôte. Eh oui, parce que c'est extraordinaire l'histoire de la Pentecôte. Oui, quand on connaît que le Père, Dieu créateur, c'est lui par le souffle et l'esprit qui a créé toute chose, Jésus est venu nous révéler d'une manière visible Dieu invisible en accomplissant le plan de Dieu pour notre salut et pour notre rédemption complète et totale pour l'éternité. Et nous savons que Jésus dira au chapitre 14, déjà au chapitre 14 et au chapitre 16 de l'évangile de Jean, il dira, mais moi je vous envoyais maintenant le consolateur. Il aurait pu prendre un autre mot pour dire le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu, ou mon esprit, il l'appelle le consolateur. Pourquoi? Parce que dans ce texte, les Pierre, entre autres, et puis les disciples, sont en train de se lamenter. Ils pleurent, ils se disent, mais où tu vas? Nous voulons aller avec toi, mais comment et quand? Voilà. C'est pour ça qu'il leur dit, je vous donne un consolateur. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous et je serai avec vous. Moi, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Aucune erreur possible. Aucune erreur. Et il vous rappellera les paroles que je vous ai dites. Et le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et qu'est-ce que nous faisons en retour? Ah bah, Père. Eh oui. Et ça vient pas de nous, hein. C'est pas la chair et le sang qui inspire tout cela. C'est véritablement l'Esprit de Dieu. C'est extraordinaire, une histoire pareille. C'est extraordinaire, c'est formidable. Donc, nous avons le droit maintenant que cette maison qui est dans le ciel, c'est la nôtre. Il n'y aura plus de constructeurs, plus de maçons. Quand tu arrives à la retraite, hein, maintenant. Ouais. Mais cette main, c'est Dieu qui l'a fait. Comme il a fait le paradis terrestre. Il fait le paradis céleste. Et que sera ce Seigneur, hein? Ça devrait nous faire vibrer. Mais en attendant de vibrer, nous pouvons déjà nous identifier un petit peu à travers les beaux cantiques qui parlent du ciel. C'est vrai que quelquefois, ce serait bien qu'on retrouve des cantiques qui parlent du ciel, de les chanter le dimanche matin, c'est vrai. Hein? T'en connais, Kader, hein? Voilà. Parce que ça, c'est stimulant. Une église qui chante de tout son cœur le ciel. Hein? Quand il est dit aussi nombreux que le sable des sables de la mer. Hein? Aussi nombreux que le sable des mers. Voilà. C'est un océan que nous avons devant nous. Hein. C'est quelque chose qui peut vraiment nous stimuler. Je reviendrai. Et nous nous apercevons que, eh bien, ce sont des... je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Eh oui, nous verrons Christ face à face, nous pourrons le contempler. Et Jésus d'ajouter simplement, avant que je termine, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Eh bien, jusqu'ici, ils n'ont rien compris encore. Non, ils n'ont pas compris, il va falloir la suite, brièvement. Thomas, vous savez ce fameux Thomas qui veut toucher, veut voir, et lui veut avoir des preuves sur table, hein. Il n'y a pas de difficulté, c'est comme ça. Si je ne vois pas, je crois pas. Donc Thomas lui dit, et on peut comprendre qu'il ait déjà posé cette question, bien avant son histoire qui viendra à la fin de l'évangile de Jean. « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrions-nous en savoir le chemin ?» Une question extraordinaire. « Montre-nous le chemin. » Simon Pierre lui avait dit « Mais où tu vas ?» Il n'avait pas osé aller plus loin, Pierre. Mais Thomas, par contre, lui, ça, il a bien entendu les choses, et il s'est dit « Mais comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Et où est-ce que tu vas, Seigneur ?» Et Jésus va lui répondre cette parole extraordinaire, formidable. Je crois que c'est en quelque sorte l'entête sur le papier royal du message de l'Évangile. Hein, c'est « Je suis le chemin ». Tout de suite, hein, puisque c'est une question de chemin. Mais moi, je suis le chemin. Je suis la vérité, je vous ai dit la vérité. Si ça n'était pas, je vous aurais dit le contraire. Je vous aurais dit que c'était pas vrai. Et je suis la vie. La vie, elle est ici, mais elle est de l'autre côté. Et de l'autre côté, elle porte un autre nom. Elle s'appelle l'Éternel. L'éternelle vie. La vie pour l'éternité. La vie sans fin. Ici, nous avons une vie qui est temporaire, qui est là, et bien comptée, qui est mesurée. Mais de l'autre côté, il n'y aura pas de fin. Nul ne vient au Père ou rentrera dans la maison du Père que par moi. C'est pour ça qu'il dira « Je suis la porte ». Souvenez, toujours dans l'évangile de Jean. C'est une splendeur, l'évangile de Jean. Quand vous le considérez, dites donc, c'est quelque chose. Hein. Et si vous marchez dans les ténèbres, je suis la lumière. Si vous avez faim, je suis le pain de la vie. Puisque nous parlons de la vie. Si vous me connaissiez, dira... Si vous me connaissiez, dira Jésus... Vous connaîtriez aussi mon Père ? Ben oui, parce que le Père et le Fils ne font qu'un. C'est un. Ah, mais on l'a déjà défini tout à l'heure. Dieu, le souffle, l'esprit, le créateur de toutes choses. Dieu est un être incréé. Jésus le Fils, celui qui nous fait connaître le Père. Déjà dans la vie de Jésus sur le plan moral, pas sur le plan physique, même si nous sommes à l'image de Dieu, mais pas une image physique, eh bien... Il nous est dit qu'il est l'empreinte de la personne de Dieu et le reflet de sa gloire. Vous avez trouvé une gloire en Jésus, oui. Ouais. Quand on voit la manière dont il parle, la manière dont il vit, la manière dont il se comporte, la manière dont il sert le Seigneur, dont il sert son Père, la manière dont il aime les hommes, la manière dont il meurt, la manière dont il est né aussi. Mais c'est l'empreinte et le reflet de la gloire de Dieu, tout simplement. C'est la perfection, Jésus. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et là, voilà, on va retomber encore dans une autre question. Tout à l'heure, il était question de comment. Où est le chemin ? Maintenant, c'est de le voir. Montre-nous. Alors, il y en a un autre qui vient au secours de Pierre, qui vient au secours de Thomas. Maintenant, il s'appelle Philippe. Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Tu nous le montres ? Un petit peu, ça nous suffira. C'est pas en le montrant que, de toute façon, on aura des convictions, hein. Quand on sait que Moïse a posé la même question bien des siècles, et que Dieu lui a dit tout simplement « Un homme ne peut me voir et vivre. » Vous connaissez le texte. Hein. « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et c'est Jésus qui répond « Montre-nous ton Père. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas vu, Philippe. Tu n'as pas vu que dans mes paroles, dans mon comportement, dans mes actes d'amour, à travers ceci ou cela qui était tous les jours, jour et nuit, au milieu de vous, à travers ma personne, à travers tout ce que tu as pu constater, entendre, voir de ma part, vivre avec moi, tu n'as pas connu tout cela. Et Jésus dira cette parole extraordinaire, celui qui m'a vu, a vu le Père. Eh oui, et aujourd'hui nous ne pouvons pas voir Jésus, mais nous savons qui est Jésus, et à travers notre foi en Jésus, nous voyons notre Dieu, notre Père, et nous sommes invités à rentrer dans sa maison. Je terminerai simplement. Nous, parce que nous sommes principalement des hommes et des femmes de foi ce soir, mais avons-nous cette espérance dans notre cœur ? Avons-nous cette espérance dans notre cœur ? Ou peut-être avons-nous besoin d'être réanimés dans cette espérance ? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors nous avons chacun notre place et nous allons simplement remercier le Seigneur de nous avoir fait connaître et de pouvoir savoir que si nous voyons et nous regardons à Jésus, eh bien nous avons vu ce Père qui nous sauve et qui nous a donné tant de choses, à commencer par la vie naturelle et qui nous est venu jusqu'à nous pour nous donner aussi la vie spirituelle et cela pour l'éternité à jamais. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. C'est vrai que lorsque nous mesurons les mots, lorsque nous faisons une petite étude simple à travers les textes, nous apercevons, Seigneur, que il y a eu toutes sortes d'hommes qui ont défilé, Seigneur. Il y a eu Judas qui a tourné le dos, qui a trahi, et qui a en effet donné la démonstration de la haine. Mais il y a les autres, Seigneur, qui ont appris une grande leçon, que, Seigneur, en effet, la réponse à la haine, c'est l'amour. Et pas seulement un amour charnel, un amour humain, Seigneur, de l'altruisme, ou tout simplement de l'humanisme, mais quelque chose qui suscite l'amour en nous, c'est d'abord d'aimer Jésus, d'apprendre à connaître Jésus et de l'aimer. Alors à ce moment-là, nous apprendrons aussi à aimer les autres. Et nous t'en bénissons et nous te remercions. J'aime cette parole, Seigneur, où tu nous dis, c'est ainsi que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. C'est un impératif que tu nous donnes. Mais Seigneur, plus nous t'aimerons, plus nous pourrons aimer et la capacité d'aimer les autres. Et nous t'en bénissons et nous te remercions dans ta bonté, dans ta fidélité. Puis nous voulons nous souvenir, Seigneur, que tu as dit que à tes disciples d'hier que tu partirais, mais que tu reviendrais. Et que, Seigneur, tu montais au ciel après avoir accompli notre salut que nous avons cru, non pas en raison de nous-mêmes, mais parce que tu nous en as rendu capables. Eh bien, Seigneur, qu'il y avait plusieurs demeures dans la maison de mon Père, mais la maison de ton Père. C'est aussi notre maison maintenant, c'est notre destinée, c'est le ciel. Et nous te louons et nous te bénissons parce qu'il n'y aura rien de comparable. Et lorsque nous regardons, Seigneur, de ce que tu nous dis de la cité céleste, de la nouvelle génération, de Jérusalem, tu nous dis et tu nous précises que c'est dans ce monde-là, dans ce royaume-là, dans cette ville-là, dans cette maison-là, dans cette demeure-là, eh bien qu'il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, qu'il n'y aura plus la mort, que, Seigneur, toutes les choses que l'on appelle mal, que l'on appelle péché, auront disparu. Et nous t'en bénissons et nous te remercions. Pouvons dire, Seigneur, ce sera la paix, ce sera la sérénité, ce sera le repos pour l'éternité. Oui, Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions de ce que ta parole proclame aussi ses vérités. Il y a tellement de choses dans ta parole, à travers l'Évangile, qui nous montre, Seigneur, que, en effet, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais rien n'a été oublié parce que voulons croire, Père éternel, qu'il y a encore dans notre temps, dans nos temps modernes, eh bien des hommes et des femmes qui se préoccupent, non seulement, Seigneur, de la terre, mais qui se préoccupent du ciel et de leur destinée éternelle. Seigneur, tu leur as donné la réponse. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.